Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors, le mois d'avril est traditionnellement le mois où on commémore la Shoah. Il y a plusieurs événements. Il faut d'abord rappeler que la révolte du ghetto de Varsovie, donc en 1943, s'est passée à Pessah. Et actuellement, on fait des lectures de noms. Donc, il y en a eu une dimanche dernier à Strasbourg. Oui. Voilà, et nous allons donc dans notre émission évoquer les différents textes écrits en yiddish, bien sûr, concernant la Shoah, sachant que la Shoah se dit Churban en yiddish. Alors ce mot a toute une histoire, c'est-à-dire qu'il a d'abord désigné la destruction du temple de Jérusalem. Voilà, c'est la racine Chorev qui veut dire la ruine, la destruction. La destruction donc des deux temples de Jérusalem. Et puis ensuite, il a été utilisé pour les massacres des Juifs, malheureusement fréquents au fil de l'histoire, en particulier celui de Khmelnytsky en 1648. Et puis aussi, pendant la guerre de 14-18, les déplacements violents des Juifs. Et puis, bon, ce terme est quand même resté le plus souvent pour la Shoah, ce qu'on appelle maintenant la Shoah. Et c'est pour ça que Hilberg a écrit un livre qui s'appelle « La destruction des Juifs d'Europe ». C'est-à-dire qu'il a vraiment traduit le mot « Churban ». Sauf qu'en français, le mot « destruction » s'applique plutôt à des bâtiments, mm-hmm. Voilà, on ne parle pas de destruction de gens, on peut parler d'extermination, on peut parler de génocide, on a aussi parlé d'Holocauste, et le terme qui s'est imposé depuis le film de Lanzmann, c'est Shoah.
Et pourquoi lui, il n'a pas pris Churban, en fait?
Oui, alors il a pris le terme israélien, ce sont les Israéliens qui ont pris le terme de Shoah, qui désigne à l'origine, bon, j'avais retrouvé, c'est dans un des prophètes, ça désigne une calamité, une catastrophe qui s'abat sur les gens. Bon, alors, l'avantage du mot, si on peut dire, du mot Shoah, est qu'il est vraiment réservé uniquement à cet événement, enfin, à cette destruction des Juifs d'Europe. Voilà, et peut-être c'est pour ça que ça s'est imposé. Le mot Churban, bon, d'abord, il a désigné d'autres massacres, et puis il est très difficile à prononcer, il faut dire, pour des Européens, hein,
oui.
C'est, en particulier pour des Français, hein, je veux dire, oui. Bon, avec le KH, le R, toutes des consonnes,
oui.
Hein, c'est vraiment un mot... Bon, voilà, je pense qu'il y a différentes raisons, en tout cas. Bon, par contre, aux États-Unis, c'est encore le mot de Holocauste. Bon, alors, Holocauste a vraiment aussi beaucoup de défauts,
oui,
parce que s'il y a une idée de sacrifice...
Oui, volontaire, quoi, de...
Voilà.
On n'était pas partie prenante.
Alors, là, nous avons aujourd'hui parlé d'un texte absolument pas connu, hein, donc, dont je vais vous raconter l'histoire. Donc, il s'agit de Fela Gelman, Gelman ou Gelman. Donc, ce livre... donc Fela Gelman, elle est née en 1919 et elle est décédée en 2005 à l'âge de 85 ans. Alors, elle a vécu en Pologne donc de 1939, enfin depuis sa naissance évidemment, et elle est restée en Pologne dans les années terribles, donc de 39 à 47. Et elle est une des rares survivantes, très rares survivantes de juifs restés en Pologne. Hein. On sait que les juifs qui ont survécu, les juifs polonais qui ont survécu, la grande majorité sont ceux qui sont partis, qui ont réussi à partir en URSS. Mais ceux qui sont restés en Pologne ont vraiment été massacrés de toutes les façons. Et il y a très, très peu de survivants. Donc, elle est arrivée en France en 1947. Et elle a rédigé dans les années 80 donc ses souvenirs de cette affreuse période. Entre-temps, elle s'était remariée, avait eu un fils, elle avait travaillé comme finisseuse en confection à son domicile de la rue de Turenne, dans le 3e arrondissement, sans jamais raconter à personne ce qu'elle avait vécu dans ces années. Et lorsqu'elle essayait d'en parler à son fils, il raconte qu'elle éclatait en sanglots. Mais elle a écrit, donc dans les années 80, c'est-à-dire quand même presque 40 ans après les faits, elle a écrit en yiddish, d'une écriture soignée et régulière, son histoire, avec tous les épisodes dont elle se souvient de façon extrêmement précise, et aussi la disparition de toute sa famille. Donc son fils s'appelle André Zand, et c'est lui qui a transmis, qui a retrouvé ce manuscrit, et qui l'a donné à la maison, au centre Medem Arbeiterring, qui est rue René Boulanger, où se trouvent deux éminents yiddishisants, yiddishistes, on peut dire, Erez Lévy Bernard Weisbrot. Alors, je pense que il fallait déjà imprimer les manuscrits. Alors, à peu près la seule personne en France que je connaisse, en tout cas, qui est capable de faire ça, c'est justement Erez Lévy, parce qu'il faut quand même beaucoup de patience et beaucoup de connaissances pour faire ça. Donc, il a d'abord transcrit en lettres imprimées ce document. Et puis ensuite, il a été traduit donc à la fois par Bernard Weisbrot et par Erez Lévy, ils sont tous les deux des très bons traducteurs. Et ce livre a été édité donc par Publibook. Évidemment, il n'y a pas une grande diffusion, mais comme moi, je vais au centre Medem, j'ai eu la chance de l'avoir. Et j'ai même vu son fils. On essaye de faire connaître un peu...
Il y avait une présentation publique du livre ?
Ah, je ne sais pas si le livre
était présent. Comment ça se fait que tu l'as rencontré, le fils ?
Parce qu'il passait, en fait...
Par hasard, à Medem ?
Erez donne un cours les mardis au centre Medem, et donc je passe souvent, enfin j'y vais quand je suis à Paris, je vais suivre son cours, qui est aussi très bien. Et je crois, par hasard, soit parce qu'il lui avait donné rendez-vous pour déposer peut-être des exemplaires du livre.
Il est yiddishisant, le fils ?
Non, je ne crois pas. Je crois que le fils, vraiment, c'est un vrai juif français, israélite français. Non, je ne connais pas trop l'histoire du fils. En tout cas, il était très ému de que ce livre ait pu paraître et puis accessible à des francophones.
Ouais.
Voilà, donc, je vais vous lire l'introduction. Je vais raconter les épreuves que j'ai endurées au cours de la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Je souhaite rappeler ici ma famille disparue, mon père Yoine, ma mère Rivke et mes quatre frères Dovid, Chaim, Velvel et Moshe, ainsi que mon ami très proche Ephraim. Tous ont disparu à Treblinka, en même temps que tous les Juifs d'Otvox étaient exterminés du seul fait qui portait le nom de Juif. Alors, elle rappelle quand même qu'il y a des personnes qui ont survécu de la famille, ses oncles et tantes, sa cousine, leurs petits-enfants et sa grand-mère, sa grand-mère qui était en France, qui est décédée très âgée. Voilà, donc seuls ont survécu les gens qui étaient en France, ceux qui étaient qui sont restés en Pologne sont morts. Alors, ce qui est original dans ce livre, enfin, ce qui moi m'a beaucoup intéressée, c'est que ça se passe en fait à Otvox. Alors, qu'est-ce que c'est Otvox ? Otvox est une petite ville près de Varsovie, qui est très connue, elle le rappelle, je vais vous le présenter. Les riches y venaient, donc Otvox, les riches y venaient avant la guerre en résidence d'été. Otvox était une très jolie ville avec de très belles villas, des pensionnats et des sanatoriums pour personnes souffrant d'affections pulmonaires. Elle était entourée de pinèdes, oui, alors ce sont les sosnes, les pins en yiddish, c'est un mot certainement en polonais. Donc les sosnes de Otvox sont très très connus. Hein. Les gens qui venaient y séjourner pour se soigner espéraient que la senteur des arbres et le bon air les guériraient. Il y avait même des gens qui pensaient que cela leur pourrait leur rendre la santé. Alors, c'était beaucoup de tuberculeux qui venaient là. On y venait avant la guerre passer des vacances. Voilà, donc cette petite ville qui est un peu une ville de cure, tout à fait sympa, elle est originaire de cette ville. Et donc, elle raconte comment, tout d'un coup, voilà, dans cette ville très calme, c'est la guerre qui se déclenche. Donc, le 1er septembre 39, je lis le début, était un vendredi. Je me trouvais à la maison et je préparais à manger pour Shabbos. Et donc, Shabbos, le 2 septembre, on eut vent de la nouvelle qu'un petit avion allemand avait été abattu à Schwieder, non loin d'Otvox. Donc, les gens sont allés voir et les gens ont cru que, voilà, on allait gagner la guerre puisqu'on avait abattu un avion allemand. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle arrive à recréer l'ambiance, c'est-à-dire que le fait que les gens ne comprenaient rien à ce qui se passait. Et puis, tout d'un coup, les Allemands étaient partout, c'était l'occupation. Et donc, et ensuite, il y a eu effectivement la formation d'un ghetto à Otvox, comme dans toutes les villes et tous les villages occupés par les Allemands. Mais bon, là, j'avance un peu. Voilà, on va peut-être écouter une musique avant de continuer.
Alors, j'ai un disque sur Varsovie 1943, qui est sorti en 1993. Alors, ça fait déjà un moment, mais c'était pour le 50e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie, justement. Et c'est un CD collectif dans lequel chantent beaucoup des chanteurs yiddish que nous connaissons. Ben Zimet, Hélène Engel, Jacques Grobert, Talila. Voilà, et à l'accordéon, c'est Eddie Schaff. C'est tous des gens, bon, ça, c'est un petit peu ancien déjà, 93, mais des gens très importants dans le renouveau de la culture yiddish dans l'immédiat après-guerre ou un petit peu après 93, comme c'est pas l'immédiat après-guerre, mais ce sont des gens qui chantaient déjà dans ces années. Et là, j'ai choisi deux chants qui ont rapport avec l'enfance. C'est la description, la présentation de deux figures du ghetto de Varsovie. Le premier, c'est Motele, et là, c'est Jacques Grobert qui chante.
In di shmule ges alech fin ghetto Vi es chazir kom aran di zin Ofen la begudim lech mit lates Läuft arim dem alten schnader zin Jeden fri morgen vi a schuten Mit fach schmachtele palech fin neu Gan wird sich ador di ghetto droten Zifardinen auf a Stickelbräu. Matale, a Weiler Bucher. Matale, a größer Spätz. Matale, hat viel Hatzluche, weil in der Motto is a Jatam maladietz. Matale, Ot viel hat sluche, weil in der Mortel is a jatam maladietz. Jeden steien auf gegen Barbaren, teichen blit in jeder ghetto gas. Ni matale helboyen barrikaden, in dus peine muf in kastoid blas. In dem feier finklen eugen blue, Durch den Hinger tricken in du Small Sklaut sein Held die Scherz alle fin Gräuel Fahr sein Vorhol, schickt sein jede Keul Motale, a Weiler Bucher Motale, a größer Spätz Motale, hat viel hat Sluche Weil in der Motel is a Jatam maladietz ma hat alle, hat viel hat Sluche, weil in der Mortel ist Zayat am Maladietz. Dicke Pave Miue, Niske Gensche, Zingen Feier, Flackern über sei, Sklappen dort Armaten, zittert Warsche. Gewalt, Hilchtub, du silflose Geschrei. In dem Räusch von Bombes Kanonaden Mottos Nomen hat er ihm geschwebt. Wie ein Held, gefallen auf Barrikaden, seine eigene Bar Mitzwe nicht erlebt. Aweiler Bucher, gewinner Spätz, Mottole, gehat hat Sluche, der kleiner Mottole ist gewinner Maradietz. Mottole, Aweiler Bucher, Mottole, gewinner Spätz, Mottole, gehat hat Sluche, der kleiner Mottole ist gewinner Maradietz. Молодец.
Voilà la très belle figure de ce petit garçon qui est mort avant d'atteindre sa bar mitzvah.
Oui. Et donc, elle raconte aussi des choses sur les enfants, mais là, on n'y est pas encore. Tout au début, voilà, donc les Allemands arrivent. Au début, les relations avec les Allemands sont assez correctes. Ce mot employé pour des Allemands est toujours un peu ridicule. Donc, ils font du commerce avec les Allemands, hein, donc, surtout ses frères. Ils échangent de la nourriture contre des objets. Et puis, finalement, ça se passe pas trop mal. Et deux de ses frères sont partis et ils apprennent par des amis qu'ils sont dans une petite localité qui s'appelle Kleck, donc qui est en Russie. Hein. Et donc là, se passe... Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'on voit que les gens arrivaient à avoir des nouvelles les uns des autres de manière tout à fait incroyable, par des amis d'amis... elle ne parle pas de lettres, hein, donc apparemment les lettres ne marchaient plus. Hein, on a été étonnés, en tout cas en France, comment la poste a toujours très très bien marché, y compris pendant la guerre, mais pas en Pologne, pas pendant l'occupation allemande. Donc deux de ses frères sont à Kleck, à ce Kleck, et donc elle décide d'y aller. Et donc elle décide d'y aller avec une amie et une jeune fille chrétienne, et elles partent toutes les deux. Et elles arrivent, donc là aussi la frontière russe est fermée. Alors ça c'est un peu étonnant parce qu'il me semblait que les Russes acceptaient les Juifs et tous les Polonais qui fuyaient l'occupation allemande de Pologne. Mais là apparemment il est interdit de passer. Mais ils arrivent quand même à passer, donc avec des passeurs. Elles arrivent à rentrer en Russie et elles arrivent à retrouver les frères. Les frères demandent à ce qu'elle reste. Donc les frères lui conseillent de rester en Russie. Bon, ce qui était vraiment la bonne solution pour survivre à l'époque. Mais elle ne veut pas rester parce qu'elle veut aller chercher ses parents. Donc elle dit qu'elle va repartir à Otvox, chercher ses parents pour pouvoir ensuite les ramener en Russie. Voilà. Donc là aussi, on voit comment les gens n'arrivaient pas à évaluer la situation. Et certains sont partis en Russie. J'ai des amis de Varsovie, des jeunes qui se sont mariés avant la guerre et qui ont compris qu'il fallait partir vers la Russie. Donc, ils ont dit à leurs parents, venez avec nous. Les parents ont refusé de partir. Et donc, les jeunes sont partis et ont survécu pendant que les parents ont été tués dans le ghetto de Varsovie. Voilà. Donc, après cet épisode, elle revient à Otvox. Et là, se met en place le ghetto. Et donc, les choses sont de plus en plus difficiles. Il y a un Judenrat qui est formé. Donc le Judenrat, c'était des juifs qui étaient nommés pour gérer la population juive. Et on cherche aussi les gens pour le travail forcé, donc en particulier son ami Ephraïm. Et on les libère, en fait. Bon, ils travaillent de manière très dure pendant un certain temps, mais ensuite, on les libère. Voilà, ben, je vais peut-être m'arrêter là, parce que ce livre mérite quand même qu'on y consacre du temps. Donc, on le continuera pendant une autre émission, et peut-être on écoute encore une musique.
Ben encore, alors, donc, un autre enfant, tout ça, ça se passe dans le ghetto de Varsovie, un autre enfant qui s'appelle Yisrolik, et là c'est chanté par un chanteur moins connu ou pas connu du tout, Frank Hagendorf, dont on entend, je m'en excuse, mais quand même la chanson est belle et le texte est intéressant, mais c'est pas un grand chanteur, il s'appelle Frank Hagendorf. Donc toujours dans le même CD, Varsovie 1943.
Et on vous dit toujours, de nouveau, pardon, Shalom Aleichem, à la semaine prochaine.
Et merci Thomas.
Köyfşe papirosen, ni köyfşe sacharin, geworden is Hans heure billig wert. A leben far a groschen, a brute a verdienst, fin ghetto-händler hot ihr doch gehört. Weiß, Yisrolik, ich bin das Kind fin ghetto. Weiß, Yisrolik, a heftige dicke jing, Kosch verblieben, Golle netto, der lang nicht noritzte, a Schwitsche und a Sing. Kosch verblieben, Golle netto, der lang nicht noritzte, a Schwitsche und a Sing. A Mantel und a Kragen, tacht einem Finner Sack, Galoschen hab ich's viel nodig hier. Und wer es wird nur wagen, zu lachen, euer Sach, denn will ich noch wasen, wer bin ich? Heiß, Yisrolik, ich bin das Kind vom Ghetto. Heiß, Yisrolik, a heftige dicke Jing, hat verblieben, Golle, netto, der lang nicht noritzte, als mit schöner Sing. Nicht meint mir hat geboren die heftige dicke Gass, bei Tate, Mame, euch gewein ein Kind. Ich hab beide ungeboren, nicht meint es ist ein Spaß. Ich bin geblieben, wie im Feld der Wind. Heiß, Yisrolik, nur wenn keine seht nicht, wisch ich still sich, für euch, ja rup, a Trär. Nur für mein Treue, besser als man rett nicht, zu Wurz. Der Mannen und machen's Herz sich schwer. No, für mein Treue, besser als man rett nicht, zu Wurz der Mannen und machen's Herz sich schwer.